Pascal Jardin, l'affaire Christelle Blétry. Quelques heures plus tôt, Jackie Sivignon fait sa tournée du jour. À 12h05, le postier atteint le chemin de l'étang d'Ocle, qui ne dessert qu'une seule ferme. Il faut pourtant remonter toute l'allée étroite pour accéder à la boîte aux lettres. Après s'être engagé, roulant au pas, il remarque un corps sur le côté gauche, dans le fossé. En ce 28 décembre, l'air est glacial. Les vêtements qu'il aperçoit sont couverts de givre. Jackie accélère donc pour atteindre la ferme et revient près du corps avec l'agriculteur. Là, ils prennent le pouls. Plus rien à faire. Ils retournent à la ferme et préviennent les pompiers avant de revenir sur le chemin. Le fermier se poste à l'entrée du sentier pour guider les secours. Jackie attend près du corps, très vite rejoint par les pompiers. L'un d'eux s'approche, enfile une paire de gants, soulève la victime et lance à son collègue. C'est trop tard, il faut appeler la police. Police et SMUR déboulent. On demande à Jackie de rentrer au bureau de poste, de prévenir son patron et de se rendre au commissariat pour recueillir sa déposition. Autour de la victime, il n'y a pas grand-chose. Près des jambes, son sac à main et une écharpe. Un peu plus loin, un emballage de papier Kraft de chez McDonald's. Entre Noël et le jour de l'an, un samedi, le technicien d'investigation judiciaire de permanence est en fait un commissaire de la brigade financière. C'est pourtant lui qui a donc la charge des constatations sur la scène de crime. Le SRPJ arrive de Dijon vers 13h, accompagné du docteur Guillemin. Après les constatations d'usage, le corps est emporté au centre hospitalier Jean Bouvry. Sous la direction du commissaire Schwendener, tout est mis sous scellé. L'ADN est quelque chose qui commence à compter dans les enquêtes. Le commissaire en est conscient. À l'époque, des comparaisons directes sont possibles si un suspect est déterminé et si des traces évidentes sont prélevées. Un grand soin est donc apporté à la scène de crime et aux vêtements de la victime. On emballe une pierre qui porte des traces de sang, de même qu'une feuille d'arbre, l'écharpe. Avant d'être emballé lui aussi, le sac à main est ouvert. Il contient les papiers de la victime. Vous avez tout compris. Dans les sous-sols de l'hôpital, vers 18h, le docteur Guillemin débute son autopsie. Ce qui le frappe en premier, c'est la violence du tueur. Christelle a été lardée de coups de couteau. Combien ? Le légiste la déshabille lentement pour le savoir, en énumérant chacun des vêtements qu'elle porte avant de les placer sous scellés. Son blouson, d'abord, est criblé de perforations par arme blanche. Le pull est lacéré. Le jean noir est indemne, bien que taché de sang. Le décompte exact des blessures se révèle difficile. Il y en a partout et dans tous les sens. On en trouve au niveau du visage, du cou. 28 plaies au niveau du thorax, 17 sur l'abdomen, au niveau du pubis, dans le dos. Le côté gauche présente 21 plaies, alors que le droit est épargné. Au niveau des membres supérieurs et des bras, des lésions de défense sont relevées. Le cœur, les poumons, l'aorte, le foie et le rein droit sont perforés. L'autopsie ne permet pas de définir si la jeune femme a eu un rapport sexuel récent. Le vagin est particulièrement sec. L'hypothèse du viol est donc écartée. Le légiste conclut à la présence de 123 plaies par arme blanche et précise que chaque coup porté sur les organes est une blessure létale. Selon lui, la victime était debout ou assise au moment des coups. Il n'y a pas de sang autour du corps sur le lieu de la découverte. La victime a pris des coups avec le thorax en position verticale et elle est morte là où on l'a retrouvée. Lorsque l'on reçoit des coups de couteau en position verticale, le sang coule à l'intérieur du corps. Il y a une hémorragie massive, la mort est survenue en moins de 3 minutes. L'absence de blessure sur le côté droit laisse penser qu'elle pouvait être assise sur le siège passager avant d'une voiture avant d'être abandonnée sur le chemin. Pendant que le légiste travaille sur ses constatations, le directeur d'enquête Schwendener procède à l'audition de l'entourage de la victime afin d'apprendre à la connaître. Étant donné la violence des coups, l'absence de composantes sexuelles ou de vol, il n'y a que deux possibilités. Soit Christelle a fait une mauvaise rencontre, soit elle était attendue. Le tueur devait évacuer sa rage. Pour en cumuler autant, il est probable qu'il connaissait Christelle. Son entourage et sa personnalité sont passés au peigne fin. Après l'interrogatoire de la famille de Christelle et de ses amis, il en ressort le dessin d'une jolie jeune femme de 20 ans à la recherche d'un équilibre sentimental qui rêvait d'émancipation du point de vue parental. Elle est décrite comme réservée et intelligente. Séverine, sa meilleure amie, exclut la possibilité qu'elle monte dans une voiture inconnue. Sa mère et sa sœur confirment, Christelle était prudente. Cela renforce l'idée qu'elle devait connaître son agresseur. Lorsque Séverine évoque l'histoire d'Anthony, ce jeune homme devient immédiatement suspect. Aucun des amis de Christelle ne le connaît, l'histoire n'ayant duré que 15 jours. Les enquêteurs se présentent au Tropicana. Par chance, le jeune homme y est un habitué. Ils mettent donc rapidement la main dessus. Conduit en garde à vue, il est interrogé. Anthony ne comprend pas ce qui se passe. Oui, il connaît Christelle, mais il ne lui veut pas de mal. Il se décompose quand il apprend sa mort et reconnaît l'agression au couteau. Mais c'était pour rire. Oh, et au fait, il ne s'appelle pas Anthony, mais Christophe Arès. Anthony s'appelait mieux aux filles, ça fait plus cool. Christophe se voit dans l'obligation de justifier ses allées et venues le soir du meurtre. Par chance pour lui, il n'était pas seul. Il a loué une chambre d'hôtel au Formule 1, non loin du Tropicana. Ils étaient jusqu'à 11 dans la chambre, une sacrée soirée. Ils ont bu, fumé. Il y avait des filles aussi, donc, bon. Parmi eux, le frère de Christophe et sa copine. Le groupe se retrouve ensuite dans la boîte. Au petit matin, les frères Arès rentrent chez eux. L'alibi semble solide. Mais Christophe aurait pu s'absenter au cours de la soirée. L'aller-retour se fait en 30 minutes. On sait qu'il a une voiture, une 309 blanche. On décide donc de la rechercher. Mais Christophe l'ayant échangé à Lyon contre du shit, la police n'a rien pour le retenir. Il reste cependant dans le collimateur, régulièrement entendu pour confronter ses versions. Christophe aime les couteaux, c'est un délinquant, un trafiquant, une petite frappe, mais il demeure loin de l'idée qu'on peut se faire du monstre ayant agressé Christelle. Autre piste à explorer, le rôdeur qui semblait suivre la victime. C'est Martine, la chef de stage de Christelle, qui en dit le plus. Martine s'occupe de la maison de quartier où la jeune femme a travaillé dans le cadre de sa formation de puéricultrice. Un soir, après que tous les parents ont récupéré leurs enfants, elles ont aperçu une ombre qui les observait à travers les carreaux. La personne s'est enfuie dès qu'elles ont approché. Cela s'est reproduit deux fois. Martine a signalé l'incident à la mairie ainsi qu'à la police. Cela avait fait très peur à Christelle. Depuis lors, elle ne repartait plus seule de la maison de quartier. Lorsqu'un meurtre d'une telle violence se produit dans une petite ville calme de province, cela déferle la chronique, délie les langues et resserre les liens. Où que l'on aille dans Blanzy, le prénom de Christelle est sur toutes les lèvres. Les jeunes filles sont escortées, les mères tremblent, les pères se jaugent en cherchant le coupable. C'est dans un article du JSL, le journal de Saône-et-Loire, daté du lendemain du meurtre, le 29 décembre 1996, que Marie-Rose apprend ce qui est arrivé à sa fille. Là seulement, qu'elle lit les mots qu'elle n'a pas entendus. Décès, meurtre, coup de couteau. La nuit passée, elle y croyait encore. Christelle allait rentrer, tout ça n'était qu'un cauchemar, un atroce et bien trop réel cauchemar. Ce matin, c'est terminé, rédigé sur papier grisé. Christelle est morte, sauvagement assassinée. C'est encore dans le JSL que Marie-Rose apprend le nombre de coups de couteau que sa fille a reçus, lorsqu'il publie les résultats de l'autopsie. Là toujours qu'elle retrouve l'écriture de sa fille, lorsque le JSL reproduit la lettre qu'elle a envoyée à Séverine pour lui parler du rôdeur et d'Anthony. Marie-Rose voudrait comprendre, qu'on lui explique où en est l'enquête, qu'on lui parle, qu'on la considère. Mais rien, la police ne l'écoute pas, ne l'interroge pas. Gilles Blétry, son mari, pas davantage, ni Nicolas, le frère de Christelle, et Myriam, la petite sœur. Les jours passent et les pistes se referment une à une. Jérôme, Philippe et Nicolas sont restés quelques heures en garde à vue. Suspectés chacun leur tour, ils sont maintenant gardés à l'œil. Le rapport de l'experte en biologie moléculaire, Hélène Pfitzinger, parvient à la PJ au bout de 3 semaines. Le cheveu trouvé dans la main gauche de la victime a permis de caractériser un ADN. Il s'est révélé différent de ceux des personnes suspectées. Ce cheveu appartient en fait à la victime. Les vêtements de Christelle n'ont pas fait l'objet d'analyse. On lance une perquisition de la maison de quartier, sans plus de succès. Sans piste tangible, la police lance un appel à témoins le 16 janvier 1997. De nombreuses informations parviennent aux policiers, qui les vérifient une à une, sans qu'ils apprennent quoi que ce soit de plus. Christelle s'est volatilisée entre le bar Le Régent et son domicile, vers 1h du matin, pour être retrouvée morte à 2 km de là, quelques heures plus tard. Que s'est-il passé entre-temps ? Qui a-t-elle croisé ? Aucune réponse.